Débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Les Algériens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau président. Le scrutin qui doit désigner le remplaçant d'Abdelaziz Bouteflika a déjà été reporté deux fois, mais ce n'est pas parce qu'ils sont appelés à voter que les électeurs se déplacent, car le mouvement de protestation qui s'exprime tous les vendredis depuis février récuse non seulement les cinq candidats, tous très marqués, année Bouteflika, mais l'ensemble du système politique. L'armée, en revanche, tient manifestement beaucoup à ce qu'un président soit élu pour retrouver le cadre constitutionnel, en clair pour revenir à la normale. Algérie, une élection présidentielle pour rien, c'est la question du jour. Et pour en parler, non pas deux, mais trois invités sont avec nous ce soir. Trois invités par téléphone, et on va vous expliquer ça, parce qu'il est très difficile de circuler dans Paris ce soir, donc on n'a pas voulu prendre de risque pour que tout le monde soit avec nous. Et notamment Elmoud Moud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie et vice-président de l'Université Paris-Dauphine. Pierre Vermeeren, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb et des mondes arabo-berbères et auteur du livre « Déni français, histoire secrète des relations franco-arabes », c'est chez Albin Michel. Et en direct d'Alger, Majid Makedi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique au quotidien algérien El Watan. On va commencer avec vous, Majid Makedi. Comment s'est déroulée la journée en Algérie? Quelle est la situation et quelle participation, puisque c'est l'un des grands enjeux du jour?
Effectivement, aujourd'hui, il faut préciser qu'il y a eu deux événements importants. Donc il y a la présidentielle imposée par le pouvoir en place et un référendum populaire qui s'est exprimé dans la rue contre cette même élection qualifiée par les Algériens de mascarade. Donc à Alger, dans de nombreuses villes en Kabylie, à l'est du pays, même à l'ouest du pays, donc il y a eu des manifestations, des manifestants qui sont sortis en masse pour contester cette élection. Donc, pour exprimer le rejet de ce scrutin qui a été rejeté à plusieurs reprises depuis son annonce en septembre dernier par le pouvoir, donc les militants sont sortis chaque vendredi. Aujourd'hui, depuis hier, donc à Alger, les manifestants se mobilisaient au centre d'Alger et aujourd'hui il y a eu une foule immense, une foule importante qui, malgré la répression qui s'est abattue sur les manifestants au début de la matinée, donc la foule s'est imposée dans les rues d'Alger et pendant toute la journée, elle a occupé le centre d'Alger. Et concernant la participation, c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie, une élection présidentielle enregistre le plus bas taux de participation jusqu'à 17h selon l'autorité des élections. On a 33,6% de participation. Maintenant qu'il ne devrait pas évoluer beaucoup en 2 heures puisqu'il est venu de vote enfermé à 19h.
Elmoud, est-ce que vous êtes surpris par la manière dont s'est déroulée la journée ou finalement est-ce que c'était attendu ces tensions?
Non, c'était tout à fait prévisible.
Oui, non.
Alors attendez, on va laisser parler Elmoud. Reprenez. C'était effectivement prévisible.
Oui, c'était tout à fait prévisible. Si vous voulez, vous avez un mouvement politique de grande ampleur, très puissant, qui ne s'est jamais tari et qui a poursuivi dans un axe extrêmement clair, fondé sur des revendications strictement politiques de changement du système, d'une transition politique réelle et un dialogue de sourds avec un pouvoir qui, en dépit de toutes les manifestations, a imposé ses élections. Donc le résultat a été probablement connu à l'avance, mais le coup de force ne durera pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez tous les ingrédients qui ont poussé à ce hirak, à ce mouvement, à ce soulèvement, sont toujours là. Une économie super concentrée sur les hydrocarbures, un taux de participation de la force de travail le plus bas du monde, 40%. Donc des jeunes qui n'ont pas d'avenir, qui ne peuvent se projeter dans l'avenir, des situations dans lesquelles finalement un secteur informel le secteur informel n'a cessé de croître. Donc en fait, tous les éléments, si vous voulez, structurels de cette économie fondée sur la rente pétrolière qui s'est aggravée ces dernières années avec le régime Bouteflika sont toujours là. Et donc en fait, la liaison entre la transition politique et la transition économique, elle est plutôt dans le sens de la causalité suivante. C'est parce qu'on aura une véritable transition politique que la transition économique pourra arriver. Or, le gouvernement, enfin le pouvoir politique en place en ce moment, l'armée en particulier, a décidé le contraire, c'est-à-dire de précipiter des élections illégitimes avec un pouvoir économique illégitime qui est incapable de mener des stratégies de diversification ou même d'adaptation à la crise quelconque, illégitime, inefficace, avec un pilotage à vue et la substitution par une équipe finalement qui est totalement le résultat du système, hein, tous les candidats qui sont en lice sont ont été ministres, premiers ministres, et sont des vraiment le résultat même du système, eh bien l'illégitimité de ce gouvernement présent sera remplacée par l'illégitimité qui arrive. Et donc en fait, l'Algérie prendra du retard dans sa transition si cela continue de cette manière. Et malheureusement, s'ajoute à cela la violence qui commence à apparaître, alors que jusque-là, de la part des autorités, alors que jusque-là, le pouvoir, la rue, Sahira, qui est resté parfaitement mature et pacifique.
Pierre Vermeeren, vous qui êtes historien, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose, un mouvement semblable dans les pays arabes ? Ça a existé, totalement pacifique pendant des mois, et finalement il y a des élections et les gens n'en veulent pas.
Non, mais il faut dire que ce mouvement en Algérie est intervenu dans des conditions très particulières. Si vous voulez, il y a déjà eu une guerre civile, la violence s'est déjà déchaînée dans l'Algérie des années 90.
Absolument.
Ensuite, il y a eu les printemps arabes dans un grand nombre de pays qui parfois ont débouché sur une violence très faible, comme en Tunisie, mais parfois sur une violence extrême. Et donc la leçon quand même a été tirée d'une manière tout à fait remarquable en Algérie, à la fois par les manifestants et par les autorités d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on a assisté depuis 10 mois à ces manifestations hebdomadaires de masse et pacifiques. Là, c'est sûr qu'on est quand même malgré tout à un tournant, parce qu'il est probable maintenant que le pouvoir va vouloir sortir de cette affaire, et on se demande dans quelle disposition d'esprit il sera la semaine prochaine. Ils vont quand même arguer du fait, si vous voulez, parce qu'il y a déjà eu des élections illégitimes en Algérie, à la limite, c'est pas la première fois d'un strict point de vue de la démocratie. S'ils ont 35 voire 40% de participation, on peut imaginer que ce sont à la fois les personnes âgées, toute la famille FLN, les forces de sécurité, enfin qui ont voté, beaucoup de fonctionnaires peut-être. Dans ces conditions-là, ils vont dire, bah voyez, la dernière fois il y avait 50%, là on est tombé à 40 ou 35, et donc les affaires, si je puis dire, peuvent repartir. Je pense, pour terminer, on y reviendra peut-être, que en revanche, la pression économique qui va rejaillir très vite, notamment sur la dévaluation possible, risque de relancer les choses d'une manière plus douloureuse.
On va repartir à Alger avec Majid Makedi. Le régime veut absolument qu'un président soit élu, malgré cette contestation, pour pouvoir reprendre les choses comme elles étaient avant le départ d'Abdelaziz Bouteflika, faire comme si de rien n'était, c'est ça l'idée ?
Voilà, absolument. Le pouvoir de place ne voulait pas d'un réel changement. Après l'échec de son cinquième mandat, parce que c'est le pouvoir en entier qui a voulu de ce cinquième mandat de M. de Bouteflika, après l'échec de ce cinquième mandat, il a tout fait pour revenir aussi rapidement aux élections, de sorte à expliquer le départ de tout le système de ces symboles, comme le demandent les Algériens depuis plus de 11 mois maintenant. Donc, il ne voulait pas d'une véritable transition revendiquée par l'ensemble des acteurs politiques, le mouvement populaire, qui veut, à travers cette transition, dépasser les 60 ans d'errement des politiques de ce système, de ce régime. Donc, aujourd'hui, ce pouvoir, en organisant cette élection dans ces conditions actuelles, avec le climat de tension qui règne dans le pays depuis quelques mois, donc, il veut juste aller vers la désignation d'une personne qui va être la façade d'un régime militaire en fait.
Oui, El-Moub Mouhoud, on en parlait il y a quelques instants avec Pierre Vermeeren. Quelles conséquences économiques de ce mouvement et de l'élection d'un président, quel qu'il soit, si j'ose dire?
C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez, pour moi, la conséquence économique clé, c'est l'immobilisme le plus total. Parce que toutes les décisions qui avaient été prises par le gouvernement transitoire précédent sont restées inefficaces. Ils ont fait du pilotage à vue, car sans aucune adhésion des forces vives de la nation, comme on dit. Et donc, on est resté sur des mesures au jour le jour, sans aucune structure. On a continué à faire du financement non conventionnel. Il faut bien dire une chose, c'est que cette illégitimité, cette inefficacité, elle va se dupliquer purement et simplement dans le nouveau pouvoir qui va apparaître. Donc pour moi, c'est de la perte de temps. On est encore en train de procrastiner devant un changement réel, et cette procrastination a commencé en 2017 avec le retour au pouvoir de Ahmadou Yahya, Premier ministre, qui a décidé de faire du financement conventionnel, non conventionnel, c'est-à-dire la planche à billets, pour préparer les élections de Bouteflika, l'élection du clan, et ça n'a pas marché, et puis on continue aujourd'hui exactement dans la même stratégie. Et je pense que l'Algérie n'est pas dans la situation dans laquelle se trouve le Venezuela, ni d'ailleurs dans celle du Soudan. Il y a encore des marges de manœuvre, même si elles ont fondu, les réserves de change sont encore à 60-70 milliards de dollars. Il y a un déficit public qui est autour de 7% du PIB, mais ça reste jouable. On a encore, disons, une rente pétrolière qui est de l'ordre de 30 milliards de dollars, entre gazière et pétrolière, même si la part de l'armée là-dedans n'a pas baissé, puisqu'elle est toujours de 12 milliards à peu près, on voit bien que l'enjeu est ici. On a une situation qui s'est dégradée considérablement, mais qui n'est pas en situation de désastre, de collapse, comme on dit. Et donc, la problématique ici, c'est que la mise en œuvre d'un gouvernement qui n'a aucune légitimité aux yeux de la population, dont sa grande majorité, eh bien cette réplique d'un pouvoir politique non légitime ne produira absolument rien de bon sur le plan économique. Il est urgent que l'on prenne conscience que c'est la causalité, c'est l'immobilisme qui provient de ce replâtrage, et comme le disait le journaliste Del Watan, ce refus, cet autisme qui se poursuit d'entendre une rue, un hirak, un mouvement qui est tout à fait puissant, mature, intelligent, qui a des revendications strictement politiques pour l'instant. Il n'y a pas de revendications économiques a priori. Les gens ne réclament pas des choses invraisemblables. Ils réclament une nouvelle, une république, Deoula Madaniya Matiar Askaria, une république qui soit civile et pas militaire, et une autre constitution. Et il faudra bien, d'une manière ou d'une autre, l'entendre. Car sinon, nous ne faisons que perdre des années. Et moi, en tant qu'économiste, je peux vous dire qu'il reste 2 ans à peu près de marge de manœuvre pour cette économie-là avant son collapse. Et si rien n'est fait pour associer les grandes forces vives de la nation, les jeunes en particulier, dans un processus de renouvellement complet de la gouvernance, de la remise en cause de la corruption, du chronisme, comme on dit, des liens de copinage entre les entreprises et l'État, tout ceci doit être remis à plat. Il ne peut pas être remis à plat sans un réel changement politique. Donc, au fond, la vraie causalité, c'est que seule une vraie transition politique engendrera un changement radical, économique, social et culturel dans ce pays. Donc, ma réponse est très claire. L'effet économique à court terme sera la poursuite de ce qui se passe aujourd'hui, avec une dégradation progressive jusqu'à arriver au pied du mur, comme ils l'ont fait d'ailleurs avant le 22 février.
Pierre Vermeeren, est-ce que il pourrait y avoir une bonne surprise? Parce que là, tout le monde est très inquiet en se disant, voilà, le clan au pouvoir, le régime ne veut rien changer, alors que la rue veut changer. Est-ce qu'il pourrait y avoir une bonne surprise? Est-ce qu'il pourrait y avoir un président qui voudrait faire bouger et avancer les choses? Est-ce qu'il aurait une marge de manœuvre, le président élu?
Bah, écoutez, c'est mal parti quand même, parce que c'est vrai que sa légitimité va vraiment être au plus bas, puisque de toute manière, ce ne sont pas des personnalités qui ont été choisies pour leur charisme, et en tout cas, ce sont des personnalités qui sont reliées par tous les fils à cet ancien régime, dont ils ont été soit des rouages, soit des ministres importants. Donc tous les fils nous ramènent au passé, à travers eux et au cœur de l'État. Et en plus, comme c'est l'armée qui les a choisis finalement et qui les soutiendra, puisque le retrait de l'armée va laisser ses civils en avant, et c'est d'ailleurs bien ce qui est actuellement recherché, c'est pour ça que Gaït Salah voulait absolument que ces élections aient lieu, il est certain que la légitimité est très faible. Alors maintenant, il est possible qu'à l'intérieur du régime, on mise sur la stratégie des Russes et des Saoudiens qui consiste à faire remonter le prix du baril en se disant que s'il atteignait les 40 ou 50 milliards de dollars, les 40 ou 50 dollars par baril, on pourrait repousser l'échéance de 2 ans dont parle Mouhoub de quelques années encore. Maintenant, ça serait quand même une drôle de stratégie. Alors, est-ce qu'il va proposer une réforme constitutionnelle comme cela avait été annoncé? Avec qui? Qui va accepter de parler avec lui? Est-ce que le Hirak va continuer dès demain ou en tout cas dès la semaine prochaine? Est-ce qu'on va assister à des blocages à l'intérieur de l'État, de la société, des manifestations? Est-ce qu'un faux ou un vrai dialogue vont être instaurés? À minima, ce serait la solution qui devrait être faite. Maintenant, on ne sait rien parce que la campagne a été extrêmement lénifiante et au fond, rien n'a vraiment été dit. On est quand même face, même si la stratégie de l'attente et de la tortue est la plus probable, on est quand même face à un certain nombre d'interrogations. On peut toujours espérer que certains à l'intérieur de l'État algérien ont compris que de toute manière, ça ne peut pas durer comme ça. Ça, c'est certain. Maintenant, vers quoi on va, je ne sais pas.
Mais alors, on va peut-être demander à Majid Makedi. Majid Makedi, demain, c'est vendredi. Oui. C'est le jour des manifestations depuis 8 mois. Qu'est-ce qui va se passer?
Ah ben, demain il y aura aussi des événements. Donc il y a l'autorité des élections qui doit annoncer les résultats de ce scrutin, mais le mouvement populaire a promis de revenir demain dans la rue pour donner une nouvelle réponse claire à ce pouvoir pour lui dire que cette élection elle est illégitime, et elle est non reconnue par le peuple algérien, elle est refusée par les Algériens, et que la vraie revendication, c'est le changement radical du système, ce que ce pouvoir ne veut pas comprendre. Donc, demain, normalement, il y aura des marches à tout le pays, pas seulement à Alger, mais comme on l'a vu déjà, durant les derniers niveaux de dépasser, les 42 vont nous dépasser.
En quelques instants, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, les deux camps, vous le disiez, ils ne se parlent pas. Est-ce qu'ils peuvent se parler à un moment ou à un autre?
Oui, si vous voulez, c'est pas que il n'y a pas deux camps, il y a un gouvernement, un agent principal, oui. Et puis une masse de population qui essaye de s'organiser et d'avancer des revendications. Je pense que de toutes les façons, à un moment donné, on sera obligé d'en venir là, car le mouvement est irréversible. Parce qu'on n'a pas compris, et je crois que les autorités manquent d'analyse réelle. D'ailleurs, ils n'ont pas regardé les enquêtes en 2016, qui est, par exemple, moi j'avais regardé les enquêtes d'Arab Barometer, qui prévoyaient la perte de confiance totale dans ce pouvoir. Donc, ils n'ont pas compris que le processus provient d'une longue série de mouvements en Algérie, mais s'inscrit aussi dans le processus régional, et que c'est irréversible dans la plupart de ces pays de la région. La revendication démocratique est la clé du développement. C'est pas seulement quelque chose qui relève de la nécessité absolue de l'aspiration des populations, c'est aussi la seule manière de se développer, car c'est tous ces régimes, tous ces états rentiers sont viciés de l'intérieur, sont incapables d'avoir une croissance inclusive qui fait participer la population à cet effort pour sortir de la situation de difficulté.
Ouais, l'économie est confisquée, quoi.
L'économie est totalement confisquée. Il peut y avoir des taux de croissance qui peuvent être élevés, mais ils reposent sur, encore une fois, sur les hydrocarbures qui restent encore, qui rapportent 98% des recettes extérieures, 60% du budget de l'État, et qui représentent, si vous voulez, un tiers du PIB. Oui. L'autre secteur, c'est le secteur des importations, qui est un secteur parfaitement improductif. Et oui. Puis vous avez le secteur des non-échangeables, et l'industrie manufacturière a reculé pour arriver aujourd'hui à 40% du PIB, et ne représente que 10%, si vous voulez, de l'emploi formel.
Je vous arrête, parce que l'émission est terminée, on n'a plus le temps, c'était passionnant. Merci à vous, merci à Pierre Vermeeren et merci à Majid Makedi d'avoir été avec nous au téléphone. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vanner. De prochains débats lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec François Bernard pour les Dessous de l'Infox. Bonjour chez vous.
Priorité santé. Caroline